Azul Damos. Vous avez peu de personnes ont compris ce que j'ai dit. Notre frère Mustapha, quand vous le voyez, vous lui dites bonjour Mustapha. Et moi, je lui dis Azul Damos. Azul, ça veut dire bonjour en berbère. Et Damos, c'est son prénom pour les intimes, quoi. Donc, n'ayez pas peur. Je vous présente Damos, notre frère. On le voit un peu plus. J'en profite vite fait avant pour me faire un peu porte-parole. Donc, pour information, quand même, il va encore régulièrement au bled, comme il dit. Et au bled, toutes les églises sont fermées. Voire même ceux qui osent faire des cultes sur Zoom ou YouTube et compagnie sont arrêtés, emprisonnés, quoi. Mais il est réjoui parce qu'il dit ça n'empêche pas l'église de grandir et tout. Donc, prions pour nos frères aussi à l'occasion de tout ce qui se passe là-bas en Algérie. Alors voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vois mon frère Luc là-bas qui a donné le message il y a 15 jours. C'était dans le livre de... Merci Françoise. Il n'y en a qu'une qui suit dans cette salle. Ça fait plaisir. Et donc, moi, il m'est arrivé une aventure. Il y a 15 jours, j'arrive. Alors, vous avez un peu plus de détails. Quand on nous demande de préparer des messages, généralement, début de chaque trimestre, hop, on nous demande de consulter le calendrier. Et puis, celui qui est chargé d'organiser un peu tout ça, il positionne des présidences, des messages sur des dates avec des points d'interrogation en face. Et puis, on valide, on déplace et tout. Enfin, on s'organise, quoi. Et donc, je m'étais organisé pour ce dimanche-là. Et après, parmi les messages, soit c'est des messages imposés. Là, vous ne vous posez pas de questions. Là, en ce moment, c'est des messages imposés. Et puis, de temps en temps, il y a des messages libres. Donc, quand vous avez un message libre, des fois, c'est pas simple de trouver un sujet, tout ça. Et donc, j'avais trouvé un sujet tip-top, génial. Et il y a 15 jours, j'arrive là. Luc, il arrive, il attaque pile-poil 100% dans le message que j'avais préparé moi aussi, donc sur Zacharie. Donc j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je ne lui ai rien dit du tout, mais c'est le clin d'œil. Donc ce matin, je ne vous parlerai pas de Zacharie, mais je vous parlerai de Philippiens 2, 1, 18. Voilà, je vais prier aussi, moi aussi, courtement. Seigneur, merci encore pour ces instants de partage. Merci encore pour cette... liberté que nous avons encore dans notre pays de pouvoir nous rassembler, nous réunir. Nous avons une pensée particulière pour toutes ceux et celles, toutes les églises réunies, Seigneur, qui sont là pour te louer, pour te rendre gloire. Et bien sûr, nous voulons penser à tous ceux et celles qui se réunissent, mais malheureusement, peut-être dans des maisons ou en extérieur, et qui n'ont pas plus la liberté de le faire actuellement. Dans le bon nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, hop, on y va. Un petit titre, vivre en plein accord avec sa foi, avec Christ. Voilà notre défi. Je ne sais pas si c'est le vôtre, mais en tout cas, c'est le mien. C'est tous les jours, chaque fois qu'on se lève, on va essayer d'être un peu pratique. Alors, Philippe, est-ce que vous savez où est la ville de Philippe? Vous voyez, je vous ai mis une petite flèche là-haut. Donc, vous voyez où c'est. Ça, c'est une carte de l'époque. Hein, c'est un petit peu la Macédoine. Donc, aujourd'hui, c'est la Turquie, au nord. C'est la Macédoine, en dessous, c'est la Grèce. Après, un petit peu plus loin. Alors pourquoi j'ai fait ce zoom, si ça marche là? Vous voyez ce petit point là, comme ça, c'est ici. Et juste là à côté, vous voyez, il y a une ville qui s'appelle Kavala, ça c'est la carte actuelle, une autre ville qui s'appelle Drama, la Turquie est à peu près par là. Parce que là-bas, à 2, 3, 4 kilomètres de Philippe, vit une personne que vous avez rencontrée, que vous avez vue et que vous soutenez. Comment? Ah non, ça m'étonne. Hein. Non. Comment? Bon, alors, c'est... Vous la connaissez, c'est Gabrielle Jeffé et donc son mari Lakis. Hein. Ils sont là-bas, donc implantés, on les soutient depuis de longues années. Elle a un super ministère au niveau des réfugiés, donc à la frontière turque, et puis aussi parmi les enfants, enfin voilà quoi. Petit clin d'œil. Et j'ai eu la chance d'aller les visiter en 2018. Votre serviteur au milieu du temple, de Philippe, avec bien évidemment... alors, ils mettent tous hein, quelque part que Paul est passé par là et qu'il a été en prison, mais bon, ça fait partie d'un grand débat. Voilà un petit peu un clin d'œil géographique. Donc Philippe, c'est intéressant, des fois on parle des villes comme ça, mais voilà, le Seigneur continue son œuvre dans... voilà. Alors, quand Paul a écrit cette lettre, est-ce que vous savez où est-ce qu'il se trouvait? Je vous ai quasiment dit la réponse. Il était en prison. On ne sait pas vraiment où dans les détails, vraisemblablement Rome, hein, mais ça fait un petit peu débat, Éphèse, Césarée, mais il y a une majorité de commentateurs qui parlent de Rome, mais ce n'est pas très important. Alors c'est marrant parce que cette lettre, elle est intéressante. Généralement, quand Paul prenait sa plume, c'était assez souvent pour secouer un peu les églises, ou les réveiller, ou leur dire « attention, là, vous partez dans une direction qui vous êtes en dehors de la doctrine, faites attention ». Et là, eh ben, pas vraiment. C'est une lettre qui est assez courte, 4 chapitres. Et c'est vraiment... on sent que Paul avait à cœur cette église. C'est une église qui démarrait bien, qui fonctionnait bien. Une église qui était fidèle à la fois dans la foi, dans la doctrine, et aussi fidèle d'une manière pratique, parce qu'elle a fidèlement soutenu Paul financièrement pendant ses déplacements, pendant ses voyages. Donc vous voyez, l'histoire se reconstruit. Donc quand nous soutenons Pierre, Paul, Jean, Gabriel ailleurs, eh bien, Moustapha, on continue l'œuvre des églises primitives. Donc voilà. Donc Paul prend la plume et écrit à une église qui est cher à son cœur. Alors, Philippe était une ville donc importante de Macédoine où abritait une communauté chrétienne proche du cœur de Paul. Cette église avait été l'une des premières qui avait été fondée en Europe et les Philippiens s'étaient montrés particulièrement généreux et fidèles dans leur soutien à Paul. Hyper résumé, avant que vous vous endormiez, vous allez simplement vous rappeler de ça. Tout au long de la lettre, Paul exhorte les croyants à rester fermes dans la foi, à vivre dans l'unité et à refléter l'humilité et l'obéissance de Jésus-Christ. Et alors, le passage qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le passage assez central dans cette lettre. On va regarder rapidement... Le 1, l'appel à l'unité, c'est versets de 1 à 18, vous pouvez les lire. C'est marrant comment, quand on prend le temps de lire, de relire la parole de Dieu, on a l'impression qu'on monte sur une montagne. Vous savez, c'est un peu comme ça le profil de ces 18 versets. On commence à attaquer la grimpette, entre guillemets, soit à pied, soit en ski de randonnée. On y va, petit clin d'œil pour les skieurs. Et... on arrive au sommet, le sommet c'est bien évidemment Jésus-Christ, et après eh ben, on redescend complètement gonflé, on est monté sur la montagne, on est encouragé et donc on va marcher en plein accord avec sa foi et avec Christ. C'est ce qu'on va essayer de regarder. Alors les 4 premiers versets qui donc l'appellent à l'unité dans l'amour, on y va. S'il y a donc de l'encouragement en Christ... S'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayant un même amour, un même cœur, une même unité de pensée. Voilà ce que Paul écrit, il s'adresse ce matin aux Sonratiens et il nous dit « Rendez ma joie parfaite ». Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Paul commence en nous disant que si on est en Christ, on doit être unis. Un défi. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Je ne suis pas un footeux, mais imaginez une équipe de foot sans entraîneur, sans capitaine, sans coordonnateur. eh ben, l'équipe, elle fait un peu n'importe quoi. Elle joue d'une manière, comment on dit, il n'y a que des idées. Ben, elle joue pas en collectif, quoi. D'accord. Je crois qu'on dit ça comme ça. Pour le résultat du championnat, c'est un échec assuré. Eh bien, c'est pareil dans l'Église. On ne peut pas avancer si chacun tire la ficelle ou la corde à lui. Il faut regarder le capitaine. Une toute petite renvoi dans Romains 12, 10, oui, qui nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Et c'est pas simple. Une toute petite, un petit rappel aussi pendant le livre des Actes, où il est écrit « Par amour fraternel, vous vous rappelez les premiers chrétiens dans Acte 2, ils partageaient tout, ils priaient ensemble, et à cause de leur unité, plein de gens ont rejoint l'Église, parce que l'Église rendait collectivement un extraordinaire témoignage. » Pour ce point numéro 1, question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui nous empêche d'être encore un peu plus unis que nous le sommes, mis à part le dimanche matin, bien évidemment. Comment peut-on mieux s'encourager, s'aider entre frères et sœurs? Petite, peut-être, application cette semaine, essayons d'encourager quelqu'un. Un petit coup de téléphone, un petit SMS, un petit texto. Vous avez fait l'expérience de recevoir un texto de quelqu'un dont vous vous attendez absolument pas dans l'église. Un petit mot d'encouragement, un petit chose comme ça, paf. J'ai le sentiment que c'est l'Éternel qui me parle, parce que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Faites-le. Ou vous pouvez vous poser la question, tiens, cette semaine, j'ai pensé à qui? À tel frère ou telle sœur dans l'assemblée? J'ai prié pour un tel ou une telle. Est-ce que je me suis arrêté? Est-ce que j'ai pris le temps de manifester mon unité dans la prière en envoyant un petit mot? C'est pas compliqué, c'est tout simple. Voilà en introduction. Alors le beefsteak maintenant, en rouge. L'exemple parfait d'humilité, bien sûr, c'est Jésus-Christ. On va lire ces quelques versets. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que notre langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur et à la gloire de Dieu le Père. Alors on va s'arrêter, vous avez vu, je l'ai mis un peu en gras. Que votre attitude soit identique à Jésus-Christ. Alors voilà quelque chose qui... C'est un combat au quotidien, non? Vous ne pensez pas? Tous les jours. C'est un peu, je me souviens, il y a quelques mois en arrière, ou années en arrière, un frère cher à mon cœur avait fait une métaphore... médical, et avait dit, en fait, notre corps, il n'arrête pas de se bagarrer en permanence contre toutes les agressions extérieures. Hein. Ça s'appelle normalement, quand on est à peu près équilibré, on a un système immunitaire qui fonctionne correctement. Et puis des fois, y a des événements un petit peu violents qui arrivent dans nos vies, et le souci principal des intervenants qui interviennent sur nos corps, c'est de nous protéger de tout ce qui pourrait rentrer et nous attaquer. C'est un peu notre, c'est la même chose. Il avait fait une métaphore entre toutes ces agressions corporelles avec le péché. Et au quotidien, on est bien d'accord que j'ai, tu as lutté contre le péché. Alors heureusement, Dieu fait bien les choses. Il nous a donné, en principe, une conscience. Pour nous, enfants de Dieu, il nous a donné l'Esprit Saint. Donc je dirais ça, c'est le système immunitaire à peu près standard. Mais ce système immunitaire, il faut qu'il soit correctement nourri. Il faut qu'il soit correctement nourri. Et nous, pour nous nourrir correctement, ben, il faut être près du modèle. Parce que si on ne fréquente pas le modèle, si on ne s'y frotte pas régulièrement, quotidiennement, et ben, tout doucement, on s'alimente mal, on a des carences pour revenir à la médecine, dont je ne suis pas, hein, je vous rassure tout de suite. Et ben, nous, c'est pareil. Le seul moyen de quotidiennement de lutter contre ce péché qui nous entoure, ça ne veut pas dire qu'on pêche tous les jours, mais quand même, en pensée ou toutes ces choses-là, on a besoin de ce bras armé, de ce support merveilleux sans Jésus-Christ. Et je vous rassure, je vous le garantis personnellement, que cette, et je pense que vous avez fait cette expérience, si vous vous éloignez de ce guide merveilleux, extraordinaire, et bien tout doucement, d'une manière pernicieuse, toc, 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 on glisse et on s'éloigne. Pourtant, on va essayer de regarder ce privilège extraordinaire que nous avons, nous, enfants de Dieu. Alors, est-ce que la technique, ça va fonctionner? Voilà. Alors, on va regarder, en Christ, je suis une nouvelle créature. Ces cinq éléments que je vais vous donner, il y en a cinq, il y en a plus, mais j'en ai choisi cinq. C'est comme les cinq doigts de la main. Et il y a très longtemps de ça, il y a une sœur qui nous avait fait une démonstration, là, sur les cinq doigts de la main, sur la création extraordinaire de Dieu, et notamment sur la main, comment elle est organisée, comment elle fonctionne. Imaginez-vous, par exemple, privez-vous de pouces, tout simplement. Sans pouces, c'est compliqué d'agir et de bouger. Alors, le premier doigt. Je suis une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je dirais, chaque chose est nouvelle. Au quotidien, nous, enfants de Dieu, on a besoin quotidiennement de se réveiller et de se dire « Je suis en Christ une nouvelle créature ». C'est Dieu qui l'a décidé, c'est un fait, c'est pas de l'orgueil spirituel, c'est la réalité. D'accord ? Voilà chose numéro un pour s'engager. Tout ça pour nous aider à augmenter notre, ou maintenir notre intimité avec notre Seigneur. Numéro 2, je suis fils et héritier avec Christ. Romains 8, 14, 17, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, je n'ai pas tout mis les versets, mais en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous êtes héritiers, vous êtes fils de Dieu, vous êtes frères et sœurs de Jésus-Christ. Tu l'es, je le suis. Heureusement que ce n'est pas moi qui le dis. J'ai oublié Galates, hein, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 3. On le rappelle souvent, il va bientôt y avoir des baptisés, mais c'est la réalité pour chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, passés par les eaux du baptême. Je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui. Romains 6, 4, 5 nous dit « Nous avons donc été ensevelis, hein, on le dit chaque fois au baptême, avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Une vie nouvelle. Ce matin, je me lève, je prends mon café et je dis « Je vis une vie nouvelle. » Ah, vous n'avez pas l'air persuadé. Oh là là, ça dort là un peu ce matin. Hein? C'est dur. Hein? En effet, si nous avons été unis à lui par sa mort, semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. C'est bon, hein, la résurrection. Ce n'est pas que pour lui, c'est aussi pour nous. Et nous sommes appelés, exhortés à ne pas regarder qu'au pied de la chair, mais bien sûr à regarder bien plus loin. Colossiens 3, 1 à 3. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. » Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Le troisième doigt, il est pas mal. Hein? Je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui. Quatrième doigt. Je suis uni à Christ et vivant par lui. Jésus dit, il parle ici à ses disciples, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je résumerai, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous connaissez cette métaphore paysanne ? Sans lui, on ne peut rien faire. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, il faut qu'il soit avec moi, avec lui. Et ne rien faire sans lui. Sinon, on court à l'échec, puisque ce verset nous dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est une réalité. Jésus-Christ vit en toi. Il est là, avec toi, il ne t'a pas laissé tomber, il est présent. Au quotidien, tu as été scellé de son esprit le jour où tu as donné ton cœur à Jésus. C'est une réalité. Et bien évidemment que notre ennemi se régale en nous faisant douter de tout ça, bien évidemment. Mais ceci, ce sont des réalités bibliques que Dieu adresse à chacun de ses enfants. 1 Corinthiens 6, 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » L'importance pour lutter contre les microbes, un bon désinfectant, entre guillemets, c'est d'être avec lui, avec un seul esprit. Le cinquième doigt, je suis participant de la nature divine et appelé à lui ressembler. 2 Pierre 1, 3, 4 dit sa puissance divine nous a donné, c'est pas va nous donner, sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. C'est par elle qu'il nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde à cause des mauvais désirs. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Ce n'est pas moi qui le dis. 1 Jean 3, 2, bien-aimé. Pour conclure, le cinquième doigt, le pouce, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà une main que l'Éternel nous donne pour nous encourager et nous encourager quotidiennement à nous tenir près de lui afin de nous protéger et de garder notre système immunitaire spirituel en pleine forme. Et que le jour où il y a une grosse intervention, il soit là aussi. Vous avez sûrement eu des expériences autour de vous, bon, malheureusement de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, je vais rester dans le monde médical. Une intervention ou quoi que ce soit, c'est la cata, on n'arrive pas à se sortir d'une dépression. Et on part dans tous les coins, médecine alternative, les trucs coupe-feu, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Frères et sœurs, nous avons celui qui est mort sur la croix, pour nous, qui est là, disponible, qui participe à nos combats, à nos douleurs. Je suis heureux de voir notre sœur Philomène ce matin, en pleine forme, avec un cœur tout neuf, c'est extraordinaire. Hein ? Voilà, bien sûr. Ne nous trompons pas d'appui. L'appui que nous avons, c'est Christ, c'est son Esprit, c'est son Saint-Esprit, la prière, elle est là. Et si on garde pas cette intimité avec la parole de Dieu, avec notre Seigneur, vous savez, c'est facile. Vous avez deux, trois voisins qui vous disent « Ouh là là, va voir un tel, ça va te soulager. » On est d'accord. Je veux dire, il y a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui font appel à des coupe-feu extérieurs ou des impositions des mains extérieures. On ne se pose pas de questions, ça fait de l'effet, ponctuellement. Bon, ben alors après, quelles conséquences ? Voilà pour ces cinq mains, pour vivre en plein accord avec cinq doigts, avec sa foi, avec Christ. Ah, cinq mains, non, ça c'est en Inde, hein. Il y a beaucoup de... Il y a des statues avec plein de mains partout. Alors l'exemple parfait. Mais c'est intéressant parce que ces cinq doigts, rappelez-vous-en, c'est quand ça ne va pas bien, ni quoi que ce soit, quand vous êtes découragé de lire la Bible, tout ça au quotidien, paf, vous prenez ces cinq encouragements. Allez, je m'arrête. Maintenant, on est arrivé au sommet de la colline, on va descendre un petit coup au soleil de la... Voilà. Alors donc ces quelques versets montrent, pas ceci, hein, ce précédemment, que des personnes nées de nouveau comme nous en Christ, unies à lui, ressuscitées, nous sommes appelés bien sûr à lui ressembler, je dirais pour notre bien. Avant de passer au point numéro 3, comment puis-je suivre l'exemple de Christ dans mes relations quotidiennes ? Alors, vivre comme des lumières dans le monde. On l'a chanté, je ne sais pas combien de fois, ça c'est des phrases, je dirais, bateau, quoi. Il faut qu'on soit une lumière dans le monde. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, ils étaient bien, hein, les Philippiens, non seulement quand j'étais présent, mais encore, bien plus encore, maintenant que je suis absent, donc la fidélité, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ça, c'est un verset qui mérite très qu'on s'y arrête dessus. Ça ne vous interpelle pas, vous ? Moi, j'ai envie de lui dire, bah, tiens, je te donne les clés du camion et puis t'agis. En effet, c'est Dieu qui produit en vous, en moi, en toi, le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Juste un petit commentaire, si on ne se tient pas dans l'intimité du Seigneur, ça va être compliqué pour qu'il nous tende la main et qu'il nous dise, ben voilà, j'ai un projet extraordinaire pour toi, je veux t'associer à ce projet. Si tu es à 15 km du Seigneur tous les jours, il ne va pas sortir la boîte à outils pour te donner ce qu'il faut faire. Non, je ne pense pas que ce soit le sens de ce verset. Par contre, ça rejoint le verset de tout à l'heure, c'est le Seigneur, c'est Christ qui est à l'origine de mes actions, parce que c'est lui qui prépare toutes choses. Donc, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochable et pur, comme des enfants de Dieu dans le monde. Attendez, moi, je me trompe. Voilà. Afin d'être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde, vous qui brillez parmi eux en portant la parole de vie. Le samedi matin, sur le marché des Nicieux, entre autres, bien sûr. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. C'est Paul qui dit. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous, vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Paul nous appelle, bien sûr, à vivre d'une manière irréprochable, afin d'être des flambeaux dans un monde rempli de ténèbres. On ne peut pas témoigner comme il faut, et je pense que j'en suis un, et vous aussi, vraisemblablement. On ne peut pas témoigner comme il faut si on n'est pas clair, si on n'est pas transparent, si on n'est pas 100% honnête avec notre Seigneur. Notamment, ce qui nous gêne le plus, c'est nos mensonges, quelque part. On s'en voit, hein. Il nous attend au virage, notre Seigneur dit, oh, t'es là, tu fais ci, tu fais ça, mais non. Voilà. C'est pour ça que si on veut être complètement clair, honnête et transparent, afin d'être une lumière qui brille, il faut que cette lumière, elle brille aussi chez moi. Sinon, ça ne marche pas. Et le Seigneur ne va pas nous donner ce qu'il faut pour pouvoir avancer et l'associer à son œuvre. Donc, Paul appelle les croyants à vivre d'une manière irréprochable, comme des flambeaux dans un monde rempli de ténèbres. Cela implique d'agir sans murmure, sans contestation, en reflétant la lumière de Christ à travers nos paroles et nos actions. Et d'une manière simple, et pour refléter la lumière de Christ, eh ben, il faut apprendre comment il est, quoi. Il faut être à ses côtés tous les jours. Quand des fois, je ne sais pas, quand moi j'étais dans une école d'apprentissage, entre guillemets, et pour apprendre des choses, je cherche mon frère adoré, on avait des professeurs, des contremaîtres à l'époque qui nous apprenaient comment il fallait. Et c'était au quotidien, au quotidien, au quotidien, pour qu'il fallait espérer, après de longues années d'études, espérer pouvoir porter du fruit en sortant des beaux produits et des belles pièces. Illustration biblique pour terminer de ce comment briller dans un monde de ténèbres. Hein. C'est ce personnage bien sûr célèbre qui est Daniel dans la cour de Babylone, qui est un excellent exemple de lumière dans un monde païen. Hein. Il a maintenu son intégrité, sa foi, malgré les pressions, et cela a conduit le roi Darius à reconnaître la puissance du Dieu vivant. Hein. Daniel 6, 25, 27. En te tenant dans l'intimité de Dieu, en me tenant dans l'intimité de Dieu, tu es assuré que si Dieu te donne des outils, il va faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas si ça va se passer, mais potentiellement, il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Et si tu ne te tiens pas dans son intimité, et si tu ne le laisses pas agir dans ta vie, voilà, les fruits. Pensez à une bougie dans une pièce sombre. Même une toute petite flamme peut transformer l'atmosphère. De même, nos vies, bien qu'imparfaites, peuvent illuminer notre entourage lorsque nous marchons avec Christ. Quelques toutes petites questions. Hein. Quels sont les défis que je peux rencontrer pour être la lumière du monde? Moi, j'ai répondu à cette question. Le principal défi que je rencontre, c'est moi. Question, une deuxième et dernière question. De quelle façon concrète je peux essayer de refléter Jésus-Christ cette semaine? J'ai fini. Hop. Tout petit rappel. Voilà. Dans ce passage, c'est Christ qui est au centre. Je vous invite à le relire. Donc, on a vu que retenir aujourd'hui, l'unité dans l'amour, c'est essentiel. Est-ce que j'ai pensé à mon frère, ma sœur, je lui ai envoyé un petit texto. Jésus est notre modèle ultime d'humilité et d'obéissance. C'est notre seul et unique inspirateur. On est appelé à briller dans ce monde. Alors, par rapport à Jésus est notre seul modèle ultime d'humilité et d'obéissance. On peut voir Christ agir à travers des frères et des sœurs, c'est sûr. Si l'Église, si Dieu a permis l'Église au sens large, c'est bien qu'il puisse nous parler, nous encourager et les autres. Mais aussi, il ne faut pas faire une fixette sur sœur machin, sœur machine. Il ne faut pas que ça devienne le héros de ma foi. N'oubliez pas que celui qui est derrière tout ça, celui qui a fait des choses, qui a fait faire des choses extraordinaires à travers la vie de mon frère ou de ma sœur, c'est lui. Lui sera toujours là, lui vous lâchera jamais, il ne vous décevra jamais et il ne vous abandonnera jamais. Prions. Seigneur, merci encore pour ces instants de partage. Seigneur, que ta parole soit un encouragement pour nous. Seigneur, exhorte-nous à quotidiennement se frotter à ta parole, Seigneur, à nous encourager avec ces cinq parties, ces cinq doigts de la main, Seigneur, qui révèlent pleinement notre identité en Jésus-Christ, parce que nous sommes tes enfants. Et Seigneur, c'est un privilège merveilleux, extraordinaire. On ne sait pourquoi ça s'est passé. Je me rappelle aussi ces paroles de ce cantique qui disait « Je ne sais pourquoi qu'un Dieu si grand un jour ait pu penser à moi, Seigneur. » Ou alors sur cette croix, ce Dieu qui m'a dit un jour « Je mourus aussi pour toi. » Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je veux l'accepter. Et en retour, je vais essayer de vivre quotidiennement en m'inspirant de ta vie, Seigneur, par ta parole. Sois vraiment encore béni dans le bon nom de ton Fils. Amen. Et bon dimanche à toutes et à tous.
Merci Guy pour ces rappels, merci pour ces encouragements. Je voulais vous laisser une dernière parole. Tu peux l'afficher. Donc c'est Luc 7, verset 50. Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. » Je vous souhaite un bon dimanche et soyez bénis. Merci. Au revoir.